Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bah, tout s'est effondré. Ça a été la stupeur. Ça a été. Il a dit que il avait vu que cet homme touchait le sexe des enfants et leurs fesses. Et après, moi, je me suis fait le fil de l'histoire à l'envers. Des manifestations le concernant qui devraient m'alerter.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Marie ?
Je viens vous voir parce que un de mes enfants a été témoin d'abus sexuels quand il était à la maternelle. Je voudrais en parler avec vous.
Voilà. Mm-hmm. Il était en quelle classe de maternelle quand c'est arrivé ?
Donc c'est arrivé. Quel âge ? Oui, voilà, il avait 3 ans presque et demi et il était en petite section de maternelle.
Mm. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Oui, bien sûr. En fait, j'ai appris qu'il y avait un problème à l'école parce que un soir, à la fin du deuxième trimestre, j'ai reçu un courriel de la part des parents d'élèves qu'ils avaient envoyé à l'intégralité des parents de l'école pour nous signifier qu'il y avait suspicion de comportement à caractère sexuel de la part d'un animateur qui faisait partie de l'école. Et ça, c'était un vendredi soir à 22h que j'ai lu le courrier et ça s'est arrêté là. Sans nous dire de quoi il retournait, sans nous dire ce qu'il fallait qu'on fasse, comment réagir. Et...
Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà à ce moment-là ?
Bah, tout s'est effondré. Ça a été la stupeur, ça a été... J'ai été traversée par plein d'émotions... par de la tristesse, par de l'incompréhension. Très vite, j'ai voulu appeler et j'ai appelé d'autres mamans que je connaissais pour savoir mais quels étaient les enfants qui étaient concernés, puisqu'on nous indiquait qu'il y avait eu déjà 3 dépôts de plainte, pour savoir est-ce que ça concernait des enfants de la classe de mon fils ou pas. Et assez rapidement, on a su que les 3 enfants en question, eh bien, ils étaient... dans la classe de mon enfant.
Est-ce que tout de suite, voilà, ça vous a amené à vous interroger sur ce qui avait pu se passer pour votre enfant ?
Alors oui, bon, j'ai déjà écouté tout ce qui se racontait, qu'est-ce qu'avaient pu vivre ces enfants, donc qui étaient concernés. Et après, moi, je me suis fait le fil de l'histoire à l'envers. Est-ce qu'il y avait des manifestations le concernant qui devraient m'alerter ? On a fait un peu le point avec son papa. On s'est rendu compte que oui, il y avait des comportements qui nous interrogeaient à l'époque, mais dont on n'en avait pas vraiment parlé avec l'autre parce que on savait pas trop quoi en penser. Peut-être c'était le développement normal. Toujours est-il que voilà, tous ces éléments mis bout à bout m'ont fait me dire mais non, il faut que je vérifie auprès d'une personne compétente si lui, il a été témoin, victime, ou s'il s'est passé quelque chose le concernant. Du coup, Je me suis dit, ces enfants, ils sont allés porter plainte à la brigade des mineurs. Ces gens-là, c'est des spécialistes, ils savent interroger. Moi, je ne me voyais pas du tout interroger mon enfant avec des questions ouvertes. Toutes les questions qui me venaient à l'esprit pour le questionner étaient réductrices, étaient peut-être accusatrices. En tout cas, elles étaient très, peut-être violentes le concernant. Et du coup, je me suis dit, je vais aller à la police. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à la brigade des mineurs. On a fait l'entretien, donc mon enfant avec une policière. Donc là, elle m'a dit qu'il ne connaissait pas cet animateur. Il n'empêche que moi, les comportements qui m'avaient amené à venir la voir, ils étaient toujours là et ils étaient. Ça restait en point d'interrogation. J'étais rassurée et en même temps pas tout à fait.
Quels étaient ces comportements qui vous questionnaient, qui vous interrogeaient ?
Il arrivait qu'il se mette derrière son petit frère. Donc, il a un petit frère qui, à l'époque, avait à peu près un an. Il se mettait derrière lui et il donnait des coups de rein. Ensuite, il avait délaissé complètement son doudou et il voulait plus que le doudou de son frère. Il aurait voulu avoir le doudou de son frère et du coup, on lui avait acheté un doudou similaire. Mais son doudou à lui, il l'avait complètement délaissé. Plusieurs fois dans la journée, il suçait son pouce et il avait comme des moments d'absence. Il était pas là. Bon, après, son papa m'avait dit que quelquefois, il avait dit qu'il voulait pas aller à la sieste à l'école quand il l'emmenait à l'école. Après les vacances précédant cette découverte, il avait fait pendant une semaine pipi au lit et ça n'était pas arrivé jamais depuis qu'il avait arrêté.
Qu'il avait acquis la propreté.
Acquis la propreté. Mmh. Concernant le doudou aussi, un jour il est rentré à la maison et ce doudou il avait une odeur nauséabonde, une forte odeur. Moi j'ai dit de pipi, j'en savais rien. Alors pourquoi je parle de cette histoire de doudou? Parce que il semblerait qu'il y ait quelque chose avec les doudous. Du coup, tous ces éléments m'ont fait dire que c'est quand même bizarre. On a fait le rendez-vous avec la police, puis très rapidement aussi, je suis allée voir son pédiatre, à qui j'avais expliqué ce qui s'était passé. Et puis, de toute façon, beaucoup d'autres parents étaient venus le voir. L'examen qu'il a fait avec mon garçon n'a rien donné de spécial. Il m'a juste dit, faudra surveiller. Faudra surveiller quoi, ça? Je voudrais bien en parler avec l'expert parce que, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois surveiller le concernant. Les semaines ont passé, les mois ont passé. J'ai suivi les nouvelles découvertes racontées par les parents et ainsi de suite. Et quand même, il y a les cauchemars qui sont apparus. Il avait très très peur d'aller se coucher. Il pouvait se réveiller aussi en première partie de la nuit à vouloir dormir dans notre lit. En fait, il voulait dormir tous les jours avec nous. Mais c'était des cauchemars très violents, très très intenses. Et donc, quand les grandes vacances se sont terminées, j'ai demandé à des parents s'ils pouvaient me donner les coordonnées d'un psychologue. Et donc, on est allé voir une psychologue. On a fait 4 séances avec elle, une première juste en tête-à-tête, mon mari, elle et moi, et les 3 suivantes avec mon garçon. Et là, il a parlé, il a dit qu'il avait vu que cet homme touchait le zizi et les fesses, le zizi, la zézette, je ne sais pas, il touchait le sexe des enfants et leurs fesses, et voilà. Au bout de la 4e séance, il a dit qu'il voulait plus y aller. Et elle a dit que il avait parlé, il avait dessiné, et que du coup, c'était pas nécessaire de creuser davantage, de faire ressortir des choses que peut-être il avait, enfouies. Donc on en est resté là. Alors les cauchemars, au fur et à mesure, se sont atténués. Un autre comportement quand même qu'il avait, qui était très fort et ça a duré vraiment longtemps, c'est qu'il avait une forme d'agressivité envers, peut-être son frère, on pourrait dire qu'il était petit et c'était juste une rivalité entre deux frères, mais aussi dans le parc avec les autres enfants. Il faisait exprès de les pousser, de les faire tomber. Oui, il avait un côté un peu méchant, disons, avec les autres enfants. Et ça a duré assez longtemps.
Qui n'était pas un comportement qu'il avait auparavant.
Non, il n'avait pas ça. Il y a eu aussi une période pendant laquelle il voulait faire des bisous sur la bouche des autres garçons, de ses copains. Ça aussi, c'était quelque chose de très nouveau. Et en me remémorant, c'est vrai qu'il avait, avant qu'on reçoive ce courriel, il avait des crises, ça pouvait lui arriver qu'il ait des crises dans cette période-là où il ne voulait pas se déshabiller au moment de se coucher, mais c'était très intense. Et en fait, le petit était tout petit, je continuais de l'allaiter, mes nuits étaient hachées. Et je me rappelle que je n'avais pas porté plus d'attention que ça, j'étais très fatiguée, voilà, je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas envie de se déshabiller, d'aller se coucher. C'était une crise terrible. Oui, il y a eu de la culpabilité de ne pas avoir vu. Oui, de ne pas avoir décodé que c'était des comportements qui étaient interrogateurs pour mon mari, pour moi, et que j'aurais très certainement dû en parler peut-être au pédiatre.
Elle est encore... très présente aujourd'hui, cette culpabilité, oui, pour vous.
Je regrette d'avoir réagi en m'énervant quand voilà, il... Alors que peut-être lui, il était pas bien, et moi, je voyais juste, je suis fatiguée, allez, on va se coucher, et c'est terminé.
Vous parliez de son petit frère, oui. Est-ce que vous avez l'impression, voilà, que ce tsunami, vous dites, oui, bien à quel point tout ça vous a chamboulé, que ça s'est étalé aussi sur plusieurs semaines, plusieurs mois,
oui.
Est-ce que vous en avez parlé à son petit frère, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des répercussions, un impact pour lui ?
Il a vécu avec tout ce stress ambiant, toute cette parce qu'on se parlait avec les mamans. Ça, il a baigné dans ce stress. Je ne saurais dire quelles conséquences ça a pu avoir sur lui. En tout cas, moi, j'étais vraiment pas bien à l'époque. Et,
Votre conjoint, comment il a vécu tout ça ?
Il a été très présent. Il m'a soutenue dans les différentes démarches que j'ai voulu faire. Il n'était pas toujours d'accord. J'ai eu l'impression qu'il préférait mettre un mouchoir dessus, comme on dit, que ça ne sert à rien de remuer quelque chose qui peut-être est déplaisant. Quand je lui ai parlé qu'on irait voir une psychologue, bon, il ne voyait pas trop l'intérêt, mais quand même, il a accepté. Voilà, il est venu au premier rendez-vous avec moi. Et effectivement, après les différentes séances et puis l'évolution du comportement de mon enfant, lui-même s'est rendu compte que ça avait eu un effet bénéfique. Parce que voilà, les cauchemars étaient de moins en moins nombreux, l'agressivité envers les autres enfants, ça avait beaucoup diminué. Je crois qu'il a été satisfait quand même que ces démarches aient eu lieu. Mais il a fallu voilà, presque 2 ans pour que moi, j'ose lui dire, très récemment en fait, parce qu'il y a eu cette interview qui se préparait, que je m'étais sentie extrêmement seule, pas vraiment soutenue par lui, parce qu'il n'en parlait jamais. C'est toujours moi qui remettais ce sujet sur le tapis. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir en parler avec lui et qu'on se rende compte que tous les deux, on avait été inquiets et qu'on est ensemble dans cette épreuve. Voilà.
Est-ce que vous avez reparlé ou ça arrive de reparler de ce qui s'est passé avec votre fils ?
C'est difficile de lui en parler sans faire apparaître toutes mes craintes qui se cachent derrière. Et du coup, j'ai pu lui redire « Oh, mais tu sais, ton corps, c'est ton corps. Personne n'a le droit de toucher. S'il y a quelque chose, tu dois m'en parler, tu peux m'en parler. » Voilà, je lui dis une fois, deux fois. Et je ne veux pas en parler tout le temps. Je sais qu'il y a des parents qui en parlent hyper régulièrement, mais je trouve que c'est agressif d'une certaine façon. Et puis, il l'a entendu une fois. Normalement, c'est intégré. Mais j'ai d'énormes craintes, oui. Et pour le petit, je crois que il est encore à la crèche. Donc, je me dis que ce n'est pas encore le moment de lui en parler. Mais lui aussi, je sais, ça va être compliqué de... Enfin...
Ce sont des inquiétudes que vous avez.
Oui, oui, oui. La manière dont le dire et que dire. Parce qu'il y a tant de possibilités d'agression d'un adulte envers un enfant que je ne peux pas lui détailler toutes les... C'est difficile, oui.
C'était des choses que vous aviez évoquées avec votre aîné avant que tout ça se passe. Voilà, la question du corps, de si un adulte faisait des choses sur son corps qui ne lui plaisent pas, qui sont interdites.
Mais jamais. En fait, je ne m'étais jamais... Enfin, c'est-à-dire que c'est un sujet qui m'a toujours préoccupée. Mais jamais j'ai imaginé que si petit, à l'école... Il pouvait arriver ça. Je pensais, mais peut-être dans les centres de vacances, Mais pas à l'école, pas alors qu'il a 3 ans. Il est si petit, ça peut pas arriver.
Bon. Oui, l'école, c'est un lieu de sécurité. En tout cas, qui est censé être un lieu de sécurité. Il a quel âge aujourd'hui, votre fils ?
5 ans et demi.
Comment il va ?
Super bien. Il va super bien, il est resplendissant. Et d'ailleurs, quand je vois la photo de classe de cette année versus la photo de classe de petite section, c'est le jour et la nuit. Il est très, 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 très bien. Bien dans ses baskets, hyper souriant, en lien avec les copains, vraiment très bien. Moi, on m'a dit que je devais faire attention, regarder, surveiller. Et là, j'aimerais avoir des éclaircissements parce que je ne sais pas que peut-être il pourrait y avoir des manifestations plus tard à différents moments, peut-être à l'adolescence, peut-être même avant. Mais là, je ne sais pas ce que je dois regarder.
C'est un peu flou pour vous.
Oui, c'est un peu flou, oui, cet aspect-là. En attendant, il va super bien.
Et vous, comment vous allez, Marie ?
Ça m'émotionne toujours. Moi, parce que je vois qu'il va bien, mais c'est là. C'est une inquiétude. Et je me rends compte quand je parle aux mamans qui, elles, sont dans la procédure judiciaire. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire partie. J'aimerais savoir ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé.
Ok. Merci beaucoup, Marie. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre expert, Jean-Paul Munier. Bonjour, Jean-Paul Munier. Vous êtes thérapeute familial et de couple. Vous avez créé l'Institut d'études systémiques que vous dirigez depuis plus de 20 ans. Vous êtes également formateur, superviseur. Votre formation initiale d'éducateur spécialisé vous a conduit à vous sensibiliser très tôt aux questions liées à la maltraitance et à vous interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux victimes de sévices, de négligence et puis sur comment accompagner les parents. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages sur ces différents thèmes. Dans mon cabinet, j'accompagne des parents qui sont parfois très inquiets que leurs enfants puissent être confrontés à des adultes ayant des comportements inappropriés, des comportements sexuels à leur égard, qu'ils puissent être victimes ou témoins d'agressions sexuelles, comme vient de nous en témoigner Marie. Parfois, eux-mêmes ont été victimes dans leur enfance, ce qui peut venir renforcer leurs inquiétudes. Selon l'association Mémoire traumatique et victimologie, aujourd'hui, 165 000 enfants seraient victimes de viols par an en France. Donc cette problématique des abus sexuels sur les mineurs est un véritable enjeu de santé publique. Il y a d'ailleurs une commission indépendante sur l'inceste et toutes les violences sexuelles subies pendant l'enfance qui a été mise en place par le gouvernement en décembre dernier. Donc il y a même une prise en compte politique, les choses bougent. Mais voilà, des questions persistent et voilà, on les a bien entendues dans ce que vous venez de nous témoigner, Marie. Voilà, comment protéger au mieux les enfants, leur donner aussi les outils pour se protéger eux-mêmes, voilà, faire de la prévention, comment accompagner au mieux un enfant qui a été victime ou témoin. Voilà, ce sont les questions auxquelles vous allez essayer de nous éclairer, Jean-Paul Munier. Tout d'abord, Jean-Paul, de quoi parle-t-on quand on parle d'abus ou d'agression sexuelle ?
Merci pour cette présentation. Alors, ça fait même 30 ans maintenant que je dirige le centre, l'Institut d'études systémiques. De quoi parle-t-on quand on parle d'abus ou d'agression sexuelle ? Pourquoi il y a cette distinction de langage ? Je vais y revenir, mais je voudrais d'abord remercier Marie pour son témoignage, l'émotion que vous nous avez faite partager. Merci beaucoup. Et une émotion qui est encore présente ici entre nous. Je voudrais poursuivre un peu, répondre à certaines réflexions que vous avez posées. La première, qui est bien sûr le sentiment de culpabilité. Heureusement, vous avez un sentiment de culpabilité. Ça veut dire que vous êtes une mère et que vous vous sentez responsable pour votre fils, de le protéger. Et vous vous dites, voilà, il y a eu un moment, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Il y a plein de psychanalystes qui, pendant des dizaines et des dizaines d'années, n'ont pas vu, n'ont pas compris. Et quand les enfants les parlaient ou quand les parents disaient, mais quand même, c'est pas normal ce qui se passe. Plein de psychologues, de psychiatres qui disaient, mais non, c'est le développement de l'enfant, etc. C'est vous qui avez des drôles d'idées dans la tête. Donc, un jour, une mère m'a dit, on me reproche de ne pas avoir vu, mais que quand je voyais quelque chose, on me disait, il n'y a rien à voir. Donc voilà, il y a une responsabilité qui est bien sûr sa responsabilité de parent quand son enfant commence à présenter des difficultés. Et puis c'est aussi une responsabilité de la société et des spécialistes qui longtemps ont mis un couvercle énorme sur ces situations. ça fait 30 ans, plus, voire plus, qu'on se bat, même 40 ans qu'on se bat, oui, 40 ans qu'on se bat pour que ces crimes, ces délits, on va venir sur les distinctions judiciaires tout à l'heure, soient reconnus. Si vous me permettez encore de poursuivre dans la lignée du témoignage de Marie, vous avez parlé de cette tristesse. Moi, j'utilise souvent ce mot d'effondrement. Il y a quelque chose qui s'effondre en soi en disant « c'est pas possible ». Et parce que quand on met au monde un enfant, qu'on soit un père, alors les pères sont souvent comme ça, oui, c'est pas si grave, allez. Et les mères disent non, il faut s'en occuper. Donc voilà, ce que vous décrivez de votre couple est assez habituel en fait. Mais c'est un effondrement parce que quand on met au monde un enfant, c'est avec l'idée qu'on va être là à tout moment et qu'il pourra compter sur soi. Et puis, élever un enfant, c'est aussi l'ouvrir au monde. Et l'ouvrir au monde, c'est l'ouvrir à des dangers. Et ça, malheureusement, même si maintenant on en parle beaucoup, on ne pourra jamais être dans une société où le danger serait totalement absent. On peut prévenir les enfants, ton corps c'est ton corps, etc. Mais un enfant de 3 ans, c'est difficile de comprendre. Et puis un enfant de 3 ans, de 5 ans, qui se retrouve avec un adulte qui va avoir des manœuvres, des propos pour le séduire, eh bien, évidemment, l'enfant, même si on lui a dit « ton corps, c'est ton corps », c'est difficile de dire non à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et donc, ce sentiment de culpabilité qui est la marque de votre maternité, dans le sens le plus large du terme, est un point vraiment important. Et je vous remercie de nous d'avoir eu, j'allais dire, le courage, parce qu'il en faut aussi. Hein. Il faut beaucoup de courage pour les enfants pour parler. Il faut beaucoup de courage pour les parents aussi de venir témoigner. Donc, merci pour ça. Je reviens à votre question, Mathilde. Donc, parle-t-on d'abus ou d'agression sexuelle ? C'est un vieux débat. Un vieux débat. D'une manière générale, beaucoup de victimes, et une des toutes premières victimes en France à s'être fait connaître, c'est Eva Thomas, qui en 1984 a témoigné à visage découvert dans une émission qui s'appelait « Les dossiers de l'écran ». Elle était accompagnée de Martine Nys, qui a été aussi une pionnière dans ces problématiques. Elle a témoigné à visage découvert du viol incestueux qu'elle avait subi quand elle était adolescente. Eva est une amie et on a beaucoup souvent parlé de cette situation. Et il y a eu une époque où plein de professionnels, psychologues disaient « oui, mais l'abus, c'est l'abus d'alcool, l'abus de tabac » et mettre les abus sexuels sur le même plan. Et Eva, dont on ne peut pas soupçonner qu'elle serait dans ce domaine laxiste, disait « on sait bien quand on parle d'abus sexuels de quoi on parle. On sait bien que ce n'est pas de l'abus d'alcool, même s'il y a des abuseurs qui abusent de l'alcool pour abuser les enfants après. » L'idée pour un certain nombre était de dire, voilà, si on parle uniquement d'agression sexuelle, il y a plein d'agressions sexuelles qui se déroulent dans un contexte de séduction. Et où l'enfant va dire, il n'a pas été méchant avec moi, il était gentil, il me faisait des cadeaux, il me disait qu'il m'aimait beaucoup. Et donc, et on a vu comme ça des débats dans des procès, des débats dans des colloques, des conférences, pour dire, mais les abus sexuels, c'est pas toujours dans la violence, etc. Et donc, l'idée de retenir le mot d'agression sexuelle posait un problème parce qu'il y a des abus qui ne se déroulent pas a priori, apparemment, dans un contexte d'agression. Et donc, ça a été encore une fois un grand débat. Et puis, je crois que c'est en 2018 qu'est apparue la notion, il y a eu une distinction qui a été faite, que Mathilde me rappelait tout à l'heure, à savoir entre les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles et les viols. Et là encore, ça a fait débat. Il y a eu plein de collègues qui ont dit « c'est un retour en arrière, ces atteintes sexuelles, mais les atteintes sexuelles, c'est des agressions sexuelles. C'est quoi cette distinction entre les deux ?» L'idée du juriste, je crois avoir compris, c'était que justement, il y a des atteintes sexuelles qui ne sont pas sur un registre d'agression, mais qui portent atteinte au développement de l'enfant. Et donc, on parle d'agression sexuelle quand il y a des attouchements. Par exemple, un agresseur, homme ou femme, même si les commodités de langage font qu'on parle plus souvent d'hommes que de femmes, mais on pourra évoquer aussi les abus sexuels commis par des femmes. Vous avez remarqué que je parle toujours d'abus sexuels, parce que pour moi, ça englobe le tout. Donc, des agressions sexuelles, ça peut être un agresseur qui va demander à un enfant de le masturber, de le caresser le sexe, etc. L'agresseur qui peut toucher les parties génitales de l'enfant, mais sans qu'il y ait d'acte de pénétration en aucune manière. les atteintes sexuelles désignent donc tous les comportements liés à une activité sexuelle de la part d'un adulte ou d'un plus grand. On verra aussi ces points-là. Par exemple, ça peut consister à contraindre un enfant à regarder des images pornographiques, etc., sans que forcément il y ait eu un contact sexuel. Mais donc, il y a une activité sexuelle chez un majeur ou chez un plus grand qui impose à un enfant d'en être le témoin, qui peut l'imposer sans violence, par la séduction. Là, on est dans des atteintes sexuelles, mais qui sont punissables au même titre que les agressions sexuelles. Et ensuite, il y a les viols. Donc, tous les viols, ce sont tous les actes de pénétration. Fellation, cunnilingus, pénétration anale, vaginale. Depuis 2 ans, c'est dans le code pénal. Je peux peut-être me le tromper légèrement, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que, initialement, dans le code pénal, la fellation et le cunnilingus n'étaient pas un viol. Et en fait, c'est la jurisprudence donc, qui a fait que certains enfants qui avaient dû faire des fellations, etc., qui a considéré qu'il s'agissait d'une pénétration, même si ce n'était pas vaginal ou anal, puisqu'il y avait une effraction dans le corps de l'enfant, et donc ça a été considéré comme un viol. Mais initialement, dans le code pénal, ça n'en était pas un, et ça a entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion chez les juristes. Parce que moi, j'ai des juristes qui me disaient « mais non, une fellation, ce n'est pas un viol, c'est un délit ». Et il y a eu beaucoup de confusion chez les juristes, chez les professionnels, chez les psychologues, pour savoir comment qualifier une fellation. Et là, les choses sont nettement plus claires. Donc, il y a un souci chez le juriste, à chaque fois, d'adapter la loi en fonction aussi de comment les enfants en viennent à dévoiler de plus en plus les abus sexuels ou les actes de nature sexuelle qu'ils subissent et le contexte dans lequel ces abus peuvent avoir lieu. Et donc la loi évolue sans cesse. Et encore maintenant, il y a un projet de loi qui, suite aux affaires qui ont eu lieu il y a 3 ou 4 ans, qui est actuellement au Sénat, pour que soit interdit dans la loi tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 13 ans, fille ou garçon. Et donc ça, c'est vraiment à chaque fois qu'on découvre des affaires nouvelles, le juriste doit réadapter la loi pour pouvoir, dans un souci de protection de l'enfant, et même si encore aujourd'hui, on est beaucoup à s'indigner d'un manque de protection, nous devons reconnaître que les enfants sont quand même mieux protégés. Pas toujours suffisamment, pas comme on le voudrait, mais quand même mieux protégés. Et le fait qu'on parle de ça en ce moment aujourd'hui entre nous est le signe qu'enfin on peut en parler. Pour finir sur la notion d'atteinte et de la loi, juste l'actualité. Il y a l'affaire Duhamel qui vient de sortir. Alors après, je ne sais pas dans les détails ce que Duhamel a demandé à son beau-fils, mais la notion d'atteinte sexuelle règle aussi la question du consentement. Parce que beaucoup d'agresseurs disaient « mais l'enfant était d'accord, il m'a suivi dans la chambre, il est venu avec moi, je ne l'ai jamais contraint, etc. » Il y avait sur les murs de Paris, à une époque, j'imagine que les tags ont été effacés, un slogan magnifique, ça dit tout. Céder n'est pas consentir. Donc voilà, pour cet aspect.
Par rapport au fils de Marie, dont le fait d'avoir été témoin d'agression sexuelle a eu quand même des répercussions sur lui, est-ce qu'il est considéré comme un enfant victime ?
Alors, il y a deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est l'enfant surprend un adulte ou un grand abusant sexuellement un enfant. Il rentre dans la chambre, par exemple, imaginons la situation suivante, un enfant de 8 ans, 9 ans, qui rentre dans la chambre de son grand frère de 17 ans et il surprend son grand frère de 17 ans à abuser la petite sœur de 12 ans. Il est témoin, mais il n'est pas victime. Et ce n'est pas du tout la même chose si le grand frère de 18 ans dit à son petit frère de 8-9 ans « reste et regarde ». Donc là, dans un cas, il y a une intention de l'agresseur vis-à-vis de l'enfant qui a surpris, et qui et dans l'autre cas, l'enfant qui est témoin, tout à coup ne comprend pas ce qui se passe, s'en va et va le dire à ses parents, ou va le dire à son psychothérapeute s'il est en suivi, etc. etc.
Dans l'hypothèse que vous émettez, le grand frère qui demande au petit frère de regarder, là on est dans le cadre,
d'une agression. Et, ou d'une atteinte sexuelle, pas d'une agression, puisqu'il n'y a pas de contact physique, mais d'une atteinte sexuelle. Et donc, il y a une reconnaissance. La loi 2018 a reconnu le fait que des enfants témoins, et a fortiori témoins obligés, sont aussi victimes indirectement de des actes en question. Évidemment, là j'ai pris un exemple un peu terrible, mais ça peut être un enfant comme ce qui est arrivé pour votre fils, de surprendre l'animateur, ou bien il y a eu tellement d'histoires avec l'Église et les prêtres, des enfants qui surprennent un prêtre avec un autre enfant, etc. Mais si l'adulte abuseur impose à l'enfant de rester, alors l'enfant devient victime. S'il surprend mais qu'il se sauve, il n'est pas victime, puisqu'il n'y avait pas l'intention de l'agresseur.
Ok. Par rapport à donc, cette situation concernant le fils de Marie dans le cadre de l'école, c'est vrai que souvent on entend plutôt dire que la majorité des agressions ont lieu dans le cadre intrafamilial, ou en tout cas que les agresseurs sont connus des enfants. Voilà, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, je reviens au témoignage de Marie tout à l'heure pour dire vous ne pouviez pas imaginer que ça se passe en plus avec des tout-petits. Il avait 3 ans, votre fils, 3 ans et demi. Ce qu'on ne se représente pas, c'est difficile de le voir. Et c'est plutôt, j'allais dire, ça peut vous surprendre, mais c'est plutôt sain que vous ne vous soyez pas représenté l'idée que je confie mon enfant dans une école avec l'idée que je le mets en danger. Mieux vaut quand même, pour continuer d'avoir des liens sociaux, penser qu'on peut compter les uns sur les autres et être solidaire. Le fait que votre fils, il avait 3 ans et demi, il a manifesté des symptômes, on y reviendra tout à l'heure, mais que finalement, quand il y a eu l'alerte par l'école, ou enfin que vous avez reçu cette lettre, vous vous soyez tout de suite alerté en disant « mais quand même, j'ai observé des choses qui ne sont pas normales, etc. », c'est la preuve d'un lien entre votre enfant et vous, d'une sécurité suffisante pour que votre enfant ait pu parler, même s'il a dit les choses à la psychologue, parce que vous ne saviez pas comment l'aborder avec lui. Ben, c'est difficile, hein. Moi, même moi en tant que professionnel, s'il s'était passé des choses comme ça avec un de mes enfants, je ne sais pas, j'aurais été en difficulté pour savoir comment parler avec lui sans le blesser, sans que ça ne vienne aussi attaquer notre relation parent-enfant. C'est pas simple. Et faire appel à un spécialiste, c'est savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Donc, il n'y a rien à redire à ça, vous avez fait le boulot de mère. Alors, on a coutume de dire depuis toujours, et à juste titre, que la grande majorité, enfin pas la totalité, mais on parle de 80%, 90%, ça change de temps en temps, des abus, des agressions sexuelles, enfin je vais rester avec le mot abus pour faire plus court, des abus sexuels ont lieu au sein de la famille. Très probablement, mais, je rajoute un mais, toutes les affaires de pédophilie qui sortent, ou les réseaux pédophiles, et on n'a pas, je vais éviter de vous donner des choses qui vont vous faire sortir d'ici complètement accablé, raser les murs. Toutes ces affaires montrent des abuseurs, des prédateurs qui vont abuser 10, 15, 20, 30, 50 enfants. Donc ça fait bouger les statistiques. Et il y a aussi des réseaux de pédophiles qui mettent en œuvre des réseaux de protection. C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'avoir des bonnes relations avec un magistrat, avec un ministre, etc., pour aussi qu'on les fiche la paix. Les réseaux pédophiles, c'est dans tous les niveaux sociaux. On voit avec les affaires actuelles. J'entendais un chroniqueur dire « il ne faudrait pas penser que les abus sexuels incestueux, c'est une affaire de bourgeois de gauche ». Puisque là, ça fait plusieurs affaires avec des bourgeois de gauche qui sortent. C'est dans tous les milieux. Alors, il ne se passe pas toujours les mêmes façons. Ce n'est pas toujours les mêmes enjeux, après, au niveau de faire savoir. Mais les réseaux pédophiles, il y a des réseaux pédophiles dans des milieux très de la haute société qui savent activer des réseaux de protection. Et puis, il y a des réseaux pédophiles, j'allais dire, type outreau. C'est-à-dire, c'est des réseaux de quartier, de voisinage, avec des problèmes de précarité, de carence qui se rajoutent par-dessus. Donc, on est d'accord, et on reste d'accord pour dire et constater que les abus sexuels, c'est en grande majorité intrafamiliaux, mais on sous-estime, et ça c'est mon expérience en 40 ans, on sous-estime le nombre important d'enfants qui ont été victimes ou qui sont victimes en dehors du cercle familial, mais qui ne peuvent pas forcément le dire dans la famille, pour éviter une catastrophe, parce que papa est au chômage, parce que papa et maman ils sont en train de se disputer tout le temps, et puis ça va faire des histoires, parce que maman elle est triste, parce que sa maman elle est morte. Enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'un enfant préfère garder le silence, et il y a la honte. Il y a la honte de l'enfant de ne pas avoir pu... Alors, je ne parle pas d'enfant de 3 ans, hein. Je ne parle pas pour votre fils du tout, je parle d'enfant plus grand, à partir de 6-7 ans. Parce que les enfants petits, de 3 à 5 ans, disent les choses assez facilement. Le problème, c'est que nous ne le comprenons pas toujours. En revanche, les enfants à partir de 6 ans, qui ont une représentation de si l'abuseur dit « si tu le dis, tu seras placé, si tu le dis, je tue ta mère, si tu le dis, on n'aura plus de maison, etc., j'irai en prison, on n'aura plus de maison », à partir de cet âge-là, les enfants ne parlent plus aussi facilement qu'ils pouvaient le faire auparavant. Donc voilà.
Oui, ils ont plus conscience des enjeux.
Des enjeux.
Et du coup, ils sont plus en capacité aussi de pouvoir protéger, en tout cas mettre des stratégies en place.
Absolument.
Pour se protéger ou protéger leur famille. Ou...
Je suis tombée des nues des dizaines de fois quand des enfants m'expliquaient comment l'agresseur s'y prenait pour obtenir le silence de l'enfant. Mais je vous ai donné quelques exemples qui sont les plus classiques. Mais il y a des choses, on ne les imagine pas tellement, c'est tordu et tellement l'enfant est pris dans un piège. Comment parler quand on est pris dans le piège? C'est comme un moustique qui est pris dans une toile d'araignée, il ne sait plus s'en sortir.
Souvent on dit, et d'ailleurs dans les chiffres, que les filles sont plus touchées que les garçons. Qu'est-ce qu'il en est?
Alors, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait mis en place un groupe d'observation pour l'enfance en danger. Et beaucoup de gens disaient, c'est un groupe qui ne sert pas à grand-chose parce qu'il ne donne aucune statistique, rien du tout. Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Là, je vous parle d'une époque révolue avec Nicolas Sarkozy, président. Les chiffres sont trop vagues. Il y a sans doute plus de filles que de garçons victimes d'agressions sexuelles, mais il faudrait relativiser ça en fonction des âges. C'est vrai que passé 12-13 ans, les victimes de viol sont plutôt des filles, plutôt rarement des garçons. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. J'ai vu dans des associations de victimes des garçons témoigner de 13-14 ans qui avaient été victimes. Mais c'est un garçon pour je ne sais combien de filles. En revanche, en dessous de 10 ans, dans un âge prépubère, on n'a pas de chiffres. Enfin, moi, je ne connais pas de chiffres qui diraient qu'il y a plus de filles que de garçons. Mon expérience, mais je ne parle que de mon expérience, m'inciterait à penser que plus on est avec des enfants petits, plus ça a tendance à être des garçons. Par des hommes, des abuseurs hommes. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand même, le pourcentage, même s'il y a des études qui ne disent pas tout à fait la même chose, mais là encore, je vais parler de ce que j'ai pu voir, y compris dans les prisons, le pourcentage de pédophiles, d'abuseurs d'enfants jeunes, qui ont été eux-mêmes abusés, vient expliquer que plus ils vont s'en prendre plutôt à des garçons qu'à des filles. Parce que le corps du petit garçon qu'ils abusent, c'est leur propre corps d'enfant qui a été abusé éventuellement. Et le pic d'âge, en Italie, en Angleterre, en Belgique, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose en France, le pic d'âge où ils sont le plus à risque se situe entre 3 et 5 ans. Parce que c'est l'âge où les enfants sont le moins crus. Je donne parfois des exemples, cet exemple d'une mère dont le gamin de 3 ans à peine, il n'a pas encore tout à fait 3 ans, dit à sa mère « Papa, il m'a demandé de lui taper la caquette. » Pardonnez-moi de dire des choses comme ça. Que dit cette mère quand elle dit quand son fils d'à peine 3 ans lui dit « Papa, il a voulu que je lui tape la caquette. » La mère lui dit, comme beaucoup de mères, « Veux-tu pas dire des choses comme ça? C'est pas beau dans la bouche d'un petit garçon. » Parce que la mère ne peut pas imaginer que l'homme qu'elle a choisi pour être le père de son enfant va faire des choses comme ça. Et donc, il y a des enfants qui parlent, mais qui ne sont pas entendus. Donc, d'où cette idée de pic d'âge, parce que l'enfant à 3 à 5 ans, c'est aussi, j'espère ne pas faire trop de zigzag dans mon propos, mais c'est aussi l'âge où les enfants recherchent, ont des élans de tendresse vers l'adulte. Moi, je vois mes petits-enfants, parce que mes enfants sont grands, alors ma mémoire flanche, mais mes petits-enfants, quand ils ont cet âge-là, ils viennent, ils vous font un câlin, c'était très attendrissant. Malheureusement, s'ils tombent sur quelqu'un de tordu, le câlin finit mal. Mais l'enfant se dit, c'est quand même moi qui suis allé vers lui pour faire un câlin. Voilà, donc c'est tout ça qui est en jeu, qui est compliqué.
Bien sûr. Dans l'exemple là que vous preniez, vous parliez d'une situation d'inceste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'inceste?
Alors, l'inceste, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue pénal, c'est pas tout à fait pareil. D'un point de vue pénal, c'est un ascendant, donc oncle, père, mère, grand-mère, grand-père, grand-frère, grand-sœur, etc., qui va abuser sexuellement de l'enfant. Donc on est dans le cercle familial avec des liens du sang. Des liens du sang ou des liens d'appartenance, parce qu'un enfant adopté, on n'est pas dans du lien du sang, mais on est dans un lien d'appartenance. Donc on est dans une problématique incestueuse. Le bel exemple qu'on a eu dans les années 90, c'était Woody Allen avec la fille de Mia Farrow, qui était une enfant adoptée, et Woody Allen disait « mais elle est adoptée, donc il n'y a pas de lien du sang, donc il n'y a pas d'inceste ». Alors que si, bien sûr, d'un point de vue pénal et anthropologique, il y avait inceste. Alors après, je fais une distinction, parce que c'est Jean-Paul Meunier avec ma sensibilité. Hein. Je n'aime pas dire d'une petite fille ou d'un petit garçon qu'il a été victime d'inceste. Je dis qu'il a été victime d'agression sexuelle. Parce que j'ai toujours peur qu'on habille l'enfant du manteau de l'inceste. Comme s'il ne pouvait plus en avoir d'autres et que c'était quelque chose qu'il allait traîner à vie. Oui, c'est pour ça que je préfère. Quand on est avec des enfants qui ne sont pas en âge d'avoir des relations sexuelles, qui subissent quelque chose, je préfère dire que les enfants ont été victimes d'agressions sexuelles incestueuses, parce qu'on est dans des liens d'appartenance familiale, plutôt que dire qu'il a été victime d'un inceste. C'est une nuance. Moi, ça m'aide parce que ça me permet, dans mon travail qui est de différencier l'enfant de ce qu'il a subi, et il n'est pas ce qu'il a subi. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Et
quel que soit le type d'agression sexuelle.
Quel que soit le type d'agression sexuelle. J'ai jamais partagé l'idée de dire qu'un enfant avait été incesté. Personnellement, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas, parce qu'incesté, c'est infecté, c'est infect. Et donc, nous devons, comme professionnels, et là aussi, on pourra revenir sur comment parler, on m'a dit de surveiller, etc., on pourra reparler de tout ça tout à l'heure, mais nous devons, comme professionnels, toujours nous attarder, ne pas oublier la partie saine de l'enfant. Quelle qu'ait pu être la partie de lui qui a pu être un peu endommagée, un peu ou beaucoup, mais toujours penser à la partie saine de l'enfant. Et notre boulot de professionnel, c'est de ne pas ignorer la partie endommagée, mais aussi de permettre que se développe et que reprenne l'élan vital de l'enfant, quel qu'ait pu être son endommagement.
Je souhaiterais rebondir sur cela. C'est aussi une des raisons qui m'a poussée à ne pas parler de cette histoire à mes amis, parce que je ne voulais pas qu'ils changent le regard qu'ils portaient sur mon enfant.
Ben vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que c'est l'intimité de votre enfant. Et le risque après, c'est que un enfant, ben les enfants, ils font des bêtises. Les enfants, et puis quand ils ont autour de 6 ans, ils découvrent ce que Freud appelait la sexualité infantile, c'est-à-dire qu'ils découvrent qu'ils se caressent, etc. Et de tout de suite, et trop vite, mettre en lien les actes subis, qui n'auraient pas dû être, avec le développement normal de l'enfant. Et parce que tous les enfants font des bêtises, mais un enfant qui a été victime d'un trauma et qui fait une bêtise, tout à coup, c'est parce qu'il a été traumatisé qu'il fait la bêtise. Non, parfois oui, mais pas tout expliqué par le trauma. Comme vous dites, je ne l'ai pas dit, mais encore une fois, vous avez bien fait, parce que sinon, ça vient. C'est comme si les gens avaient une paire de lunettes, et qui ne regarde plus l'enfant qu'à travers la lunette de l'abus sexuel qu'il a subi. Et les enfants, non, il faut les laisser grandir normalement.
Oui, ça c'est terrible pour l'enfant.
Absolument.
L'autre aspect quand même en lien avec cette question, c'est qu'effectivement ça permet de préserver l'enfant. En tout cas, moi ça m'a laissé dans une grande solitude malgré tout. C'est-à-dire que j'en ai parlé à mes parents, mais j'aurais voulu pouvoir en parler à d'autres pour être soutenue, pour être accompagnée. Et d'avoir fait ce choix, ben, je me sentais vraiment seule.
Alors, bon, vous avez évoqué les parents. On a le droit aussi d'avoir une très bonne amie ou une ou deux très bonnes amies avec lesquelles on peut parler parce qu'on est en confiance. Quand vous dites respecter l'intime, ça ne regarde pas la place publique. D'en parler avec sa meilleure amie, pourquoi pas, parce que c'est une preuve d'amitié aussi. Entre deux personnes, de pouvoir se confier des choses douloureuses et difficiles. Donc ça, c'est, quand je dis c'est bien de préserver l'intime, ça ne veut pas dire que ça doit être une chape de plomb. Mais c'est bien de ne pas en faire une affaire publique. Et l'autre chose aussi, dans d'autres circonstances, ça peut être bien aussi de se dire j'ai envie d'en parler à ma meilleure amie, mais j'ai besoin d'abord qu'on vérifie que cette amitié qui nous lie, elle est solide. Parce que vous savez, dans des situations comme celle-ci, on ne sait jamais ce que ça réveille chez l'autre. Et des situations comme ça que j'ai vues, où des parents en parlaient à leurs amis, et d'un seul coup, ça faisait le désert autour d'eux. « Ah, moi, je vais plus chez eux parce que leur gamin, il était abusé, si ça se trouve, moi, je leur laisse plus mon enfant. Hein. » Parce qu'on ne sait jamais ce qui va lui passer par la tête. Et donc voilà, il faut d'abord s'assurer que les liens d'amitié, comme dans un couple aussi, parfois, moi, j'ai eu des situations de femmes qui avaient été abusées, et qui se demandait, est-ce que je le dis à mon amoureux ou est-ce que je ne lui dis pas? dit, écoutez, peut-être que c'est mieux d'abord de vous assurer que la relation est solide. Et puis quand vous serez sûr que l'amour, c'est pas seulement être amoureux, mais c'est aussi accepter l'autre dans son altérité, ben là, peut-être vous pourrez en parler. Donc voilà, je crois que c'est bien, parce que, enfin, c'est bien, je sais, c'est maladroit de le dire comme ça, mais de ne pas se précipiter pour dire les choses et s'assurer que les dire ne mettra pas l'enfant en difficulté, ne va pas l'isoler, créer un désert pour lui. Ben, c'est... Après, vous pouvez en parler avec votre mère, si vous avez une bonne relation avec elle, vous pouvez voir un psy pour vous de temps en temps, si vous avez besoin.
Mais... Il existe des associations, des groupes de parole,
absolument.
Qui ne sont pas encore assez développés en France, mais il peut y avoir d'autres lieux. Sécurisants, sécurisés, pour pouvoir se sentir moins seul. C'est évidemment très, très important, Marie. Juste, Jean-Paul, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que l'incestuel ? Parce que souvent, on parle de climat incestuel. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'incestuel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte sexuel de quelque nature que ce soit. Pour faire rapidement, je dirais, l'incestuel, c'est quand, par exemple, un père établit un lien très privilégié avec un de ses enfants, ça peut être une fille comme un garçon, et au point que l'enfant pourrait se dire qu'il aurait été pour son père un meilleur partenaire que ne l'est la mère, par exemple. Donc un lien très privilégié entre un parent et un enfant, mais à l'insu de l'autre parent. C'est-à-dire l'incestualité, il y a Racamier qui en a parlé, j'avais aussi écrit un livre là-dessus il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans même. Et puis quelqu'un qu'on ne connaît plus beaucoup en France, qui s'appelle Mara Selvini, qui avait écrit dans ses derniers livres « Les jeux psychotiques dans la famille », dont s'est beaucoup inspiré Racamier, en oubliant un peu de la cité, mais il est allé l'écouter tous les mois à Milan à l'époque, et qui montrait comment... pour faire simple, un père pouvait avoir une relation très privilégiée, presque amoureuse, sans passage à l'acte sexuel, avec sa fille et une fille avec son père. Mais bien sûr, comme si entre nous, on s'entend bien et on sait bien que ta mère, décidément, c'est quand même pas la reine du gratin dauphinois. Pour dire ça les choses rapidement.
En tout cas, là, je pense aussi à toutes ces familles où il n'y a pas de porte à la salle de bain, où il n'y a pas de respect de l'intimité.
Alors, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que là, il y a quand même un climat familial qui est propice au passage à l'acte sexuel. Je trouve que là, dans ce que je viens de dire, on n'est pas dans une situation où on joue avec le feu. Parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité sexuelle. Mais c'est incestuel pour autant. En revanche, des situations où la porte des WC est toujours ouverte, voire il n'y a pas de porte au WC, les chambres, il n'y a pas d'intimité, on joue avec le feu comme si finalement... Et dans des situations comme celle-ci, s'il apparaissent des symptômes chez les enfants, la question se pose de savoir si, par exemple, les parents ont des rapports sexuels devant les enfants ou des choses comme ça. Donc là, on est devant un incestuel qui devient pratiquement de l'incestueux.
Et qui peut avoir des impacts aussi sur
les... Et qui aura des impacts sur les comportements des enfants. Vous avez, j'allais dire malheureusement... bien décrit l'apparition de symptômes d'enfants, des enfants qui sont ou victimes ou témoins, l'agressivité avec les autres enfants, l'énurésie, les cauchemars, etc. Et puis après, le fait que les enfants miment, parce que votre fils mimait quand il faisait des mouvements de bassin, etc. Moi, je dis plutôt un climat incestueux qu'un climat incestuel, parce que la frontière est toujours... Il y a toujours le risque qu'elle soit de franchir la barrière. Et une fois que la barrière est franchie, il n'y a plus de limite.
Bien sûr. Justement, par rapport à ces symptômes, est-ce qu'il y a des choses qui doivent, des symptômes, des comportements, là, pour les parents qui nous écoutent, quels peuvent être les points de repère ?
Marie, je vais vous inviter à l'IDES quand on fera les journées sur les abus sexuels pour parler des symptômes, parce que vous les avez très bien décrits. À savoir, le premier, c'est, alors surtout avec des enfants petits, de 3 ans, 5 ans, l'apparition brutale de symptômes. Parce que vous l'avez dit, c'était presque du jour au lendemain qu'il y a des comportements qui sont apparus. Donc l'apparition brutale de symptômes, la multiplication ou la multiplicité des symptômes, c'est souvent des enfants qui vont cumuler plusieurs problèmes. Et alors l'énurésie, le pipi au lit, quand l'enfant a été propre et que tout à coup il se remet à faire pipi au lit. Dans le livre que je citais, Le silence des enfants, je proposais une formulation avec les enfants en disant, voilà, il arrive parfois dans la vie, dans la journée, des choses embêtantes pour lesquelles les enfants n'ont pas pu se protéger. Et alors, ils ont peur la nuit si on vient les embêter dans leur lit. Et une bonne façon de se protéger, c'est de faire pipi au lit, comme ça ils se disent. Bien sûr, ils ne le font pas exprès, mais comme ça ils se disent, si les draps sont mouillés, on me laissera tranquille. Je rappelle toujours cet enfant qui m'avait dit non, 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 personne ne m'a jamais rien fait. Et quand la petite sœur, 2-3 mois plus tard, a parlé, ce garçon qui avait une dizaine d'années hein, m'avait dit « Et tu te rappelles, le pipi au lit, ça protège. » Et donc voilà, c'est à la fois, il n'y a pas une intention chez l'enfant, je vais faire exprès de faire pipi au lit pour, mais il y a un effet protecteur. Mais en réalité, le pipi au lit, c'est parce que l'enfant a été dans une telle tension la journée que la tension se relâche la nuit et qu'il ne peut pas contrôler l'encoprésie. Je vais être un peu vulgaire, vous me pardonnerez, mais c'est une bonne façon de dire qu'on est dans la merde. Donc faire caca sur soi. Les cauchemars, là aussi, c'est un symptôme qu'on peut voir chez des enfants victimes d'agressions sexuelles, mais aussi tous ces symptômes que vous avez décrits sont aussi des symptômes qu'on peut retrouver chez les enfants victimes de violences conjugales. C'est exactement les mêmes. C'est assez troublant. C'est troublant et en même temps, des études montrent qu'il y a 65% de cas d'abus sexuels de plus dans les situations de violences conjugales que dans les autres. C'est-à-dire que s'il y a des violences conjugales, il y a 65% de risque en plus qu'il y ait des abus sexuels. D'où le fait que les symptômes soient un peu les mêmes. Les cauchemars, c'est surmonter dans le sommeil une grande peur à laquelle on a été confronté la journée. Donc voilà, ça, ce sont des symptômes qu'on dit évocateurs, parce qu'ils permettent de dire que l'enfant est dans une situation de tension importante, qu'il a été confronté à une tension, mais ça peut être un abus, ça peut être les violences conjugales, ça peut être la peur que les parents divorcent. Ça peut être d'autres choses. Et puis, il y a ce qu'on appelle les symptômes spécifiques. Et là, votre fils a eu au moins un symptôme comme ça qui nous alerte. Ce sont les symptômes qui sont révélateurs de la part de l'enfant d'une connaissance anormale de la sexualité adulte. Donc les pratiques entre enfants de fellation, de cunnilingus, les exhibitions aussi, l'enfant qui est à l'école ou même à la pouponnière, j'ai vu des choses comme ça, en pouponnière de foyer de l'enfance, des enfants de 2 ans qui d'un seul coup se mettent debout sur la table, baissent le pantalon et puis montrent leurs zizi à tout le monde, les mimes d'actes sexuels. Donc on peut, quand on observe un enfant qui présente ce type de symptômes, on a malheureusement l'assurance que l'enfant a été ou victime ou témoin de scènes sexuelles. Parce que ça fait effraction dans le psychisme de l'enfant. L'enfant n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe, ce qu'on lui a fait ou ce qu'il a vu, et donc il le répète du fait qu'il ne peut pas le métaboliser, le comprendre. Et donc le trauma, c'est vraiment ce qui vient faire effraction dans le psychisme de l'enfant.
Est-ce que du coup, là vous parlez de cette question du trauma, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la mémoire traumatique, le fait voilà, que finalement la personne victime va ne rien manifester, parce qu'elle va enfouir ça aussi pour se protéger. Est-ce qu'il arrive que des enfants ne manifestent aucun signe ?
Oui, parce que certains enfants, ils sont plus grands en général, hein. Ils ont plutôt passé les 5-6 ans quand ils ne manifestent aucun signe. Parce que les enfants ont peur. Si on devine ce qu'il leur arrive, on peur de la catastrophe. Et donc, la meilleure façon pour être sûr que personne ne devinera ce qui leur arrive, c'est d'avoir l'air le plus normal possible. Vous avez des enfants. Moi, je me suis fait avoir une fois, il y a très longtemps, dans un colloque, une psychologue m'avait dit « Mais c'est pas si grave, une psychologue qui n'y connaissait rien. Hein. » Et c'est pas si grave les abus sexuels, c'est pas toujours grave contrairement à ce que tu dis, puisque la preuve, moi j'ai suivi une enfant, elle était victime d'abus, elle a toujours été première de sa classe. Donc, où est le problème ? Au point, mais ça on l'a entendu à une époque, aujourd'hui ça vous dresse les cheveux sur la tête, au point que j'ai entendu des professionnels dire « mais ça rend les enfants intelligents ». Non, l'enfant dépense une énergie folle pour sauver sa vie à venir. C'est-à-dire, personne ne doit savoir, donc si je suis le premier de la classe, personne n'imaginera ce qui m'arrive. Mais c'est aussi pour ne pas laisser les abus sexuels prendre le pouvoir sur soi. Un jour, j'ai une jeune femme qui entreprenait des études de psycho, qui m'avait demandé un rendez-vous, en disant, voilà, je voudrais être psychologue, mais avant, il faut quand même que je fasse un peu le ménage dans mon histoire. Et elle me raconte qu'elle a été victime à 3 reprises de viol incestueux par son oncle. Et elle me dit, et à l'époque, je me suis dit, bon, c'est pas ça qui doit t'empêcher de réussir les études. Donc l'enfant va lutter, va dépenser beaucoup d'énergie. Et dans un sens, c'est mieux, hein, mieux vaut avoir le bac quand on a été abusé que de se retrouver sans domicile fixe. mais c'est malgré tout au prix d'une souffrance.
Oui, parce que cette énergie, elle est prise par rapport à d'autres choses dans lesquelles l'enfant ne pourra pas s'investir, ou en tout cas qui va quand même pénaliser son développement.
Et puis, l'enfant reste avec des questions, surtout, et je voudrais, on pourra faire bien des nuances, parce que pour votre fils, il y a toujours l'âge de l'enfant qu'il faut avoir en tête. Tout ce que je dis là, c'est quand même quand on est devant des enfants qui n'ont pas été protégés vite. Votre fils a été protégé rapidement. Même si vous vous dites, ah, ça aurait dû être encore plus vite, mais n'empêche qu'il a été protégé.
Mais oui, donc là, vous évoquez la question qu'il y a la question du trauma de l'agression sexuelle et il y a la question de la révélation de la manière dont la parole ou la manière dont l'enfant va être entendu, écouté, qui peut apaiser le trauma, le premier trauma, ou renforcer.
Absolument, c'est-à-dire que l'enfant victime, victime directe, pas témoin, victime directe de l'agression, va se dire « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que telle personne ait l'idée de me faire ces choses-là » Et il va chercher la culpabilité en lui. Et si, quand il ne peut en parler à personne, à quelques moments de sa vie, si, quand il essaye d'en parler, on lui dit « Mais, c'est pas si grave, mais c'est pas vrai ce que tu dis, etc. », il reste avec une vision déformée de lui-même. Et donc, qui lui fait courir le risque à des moments importants de sa vie, de son développement, l'adolescence, se faire un couple, avoir des enfants, tous ces événements importants qui risquent de réveiller des questions non résolues liées au traumatisme. Et donc, des enfants peuvent ne pas avoir de symptômes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Et que pour autant, les questions ne sont pas présentes. Et puis, il y a toutes ces personnes, le nombre de femmes en particulier qui me disaient « Je suis en analyse depuis 10 ans, j'ai essayé à plusieurs reprises d'en parler à mon analyste, mais j'ai bien vu qu'il n'était pas prêt à m'entendre. » Et c'est vrai. Et en même temps, on pourrait dire à ces femmes, et en même temps, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prête à le dire, parce que vous gardez le même psychanalyste depuis 10 ans. Donc, vous auriez pu en changer. Donc, c'est un peu la co-responsabilité. Mais ça, c'est vrai pour aujourd'hui. Après, j'ai commencé tout à l'heure en parlant d'Eva Thomas. Eva Thomas racontait que quand elle a vu plusieurs psys, dont un qui lui a dit « Mais votre père avait le droit de faire ça ».
Là, justement, Jean-Paul, vous commencez à évoquer... Qu'est-ce que le parent peut faire quand ça arrive et cette question de comment accueillir la parole de l'enfant. Marie le disait bien, voilà, comment parler, quelles questions poser sans être l'enquêteur, accusateur.
En tant que parent, on a le droit de ne pas être un spécialiste et on a le droit d'être maladroit, de ne pas bien savoir et de dire c'est difficile. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? Où c'est trop difficile, où tu as peur, si tu m'en parles, que je te punisse. Je dis ça parce que, par exemple, un enfant, je me souviens d'un enfant qui m'a dit « Mais je ne l'ai pas dit à la police parce que je me suis dit ils vont me mettre en prison. » L'enfant, il avait 7-8 ans. Et il a fait une bêtise. Quand on fait une bêtise, on va en prison. Et donc, c'est de pouvoir... Et là, je peux de nouveau renvoyer au livre « Le silence des enfants », entre autres. Mais d'avoir en tête que le monde de l'enfant et le développement cognitif de l'enfant n'est pas le même que celui de l'adulte. Et de l'enfant de dire « Écoute, quand tu as fait telle et telle chose, par exemple, votre fils, quand il avait ses mouvements de bassin, avec un enfant de 3 ans, c'est très difficile. Avec un enfant de 5 ans, c'est un peu plus facile, c'est de demander, mais... Parce qu'un enfant de 3 ans, il ne va pas forcément savoir répondre, etc. Mais de pouvoir demander, mais est-ce que c'est des choses comme ça que tu as vues ? Parce que l'enfant peut avoir surpris un grand, regarder un film porno, ou bien d'autres choses. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu as vues ? Est-ce que tu as peur d'en parler parce que tu as peur que je te gronde ? Voilà, parce que les enfants ont peur, parce qu'ils ont le sentiment, même si c'est diffus en eux, qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé, à quoi ils n'ont pas pu se soustraire d'une manière ou d'une autre. Donc il y a la peur de la punition. Ça, c'est autour de 3 ans. Avant, c'est encore différent. Et passé 5 ans, il y a la peur des conséquences, puisque l'agresseur, quand il prescrit le secret, assorti d'une menace ou d'une pseudo-récompense, etc., l'agresseur nomme la loi qu'il vient de transgresser, dès lors qu'il dit « tu ne le dis pas à ta mère, tu ne le dis pas à ta grand-mère, enfin, ou à ton père, si c'est, etc. » Donc voilà, alors comment en parler avec l'enfant en tant que parent, le plus simplement possible, et ne pas avoir peur d'être maladroit. Les enfants ne vous en voudront pas, n'en voudront pas à leur père ou à leur mère, ou à des gens qui sont là pour les aider, d'avoir commis des maladresses. On peut, comme mère... parce que vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas formé à la brigade des mineurs, vous n'êtes pas psychologue, vous avez le droit comme maire de poser des questions fermées, parce que vous avez envie de savoir. Et bravo. Après, c'est le boulot des spécialistes de savoir comment poser les questions pour que devant des juges ou lors d'une enquête, toutes les chances soient données à l'enfant d'être reconnu comme victime.
Que faire? Alors, la réaction de Marie a été d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter ses psychologues. Qu'est-ce que vous recommandez aux parents? Poser ces questions ouvertes, même si elles sont fermées, c'est pas grave. En tout cas, montrer à l'enfant qu'on a compris qu'il s'est passé quelque chose et d'ouvrir cette porte-là. Et ensuite?
Et ensuite, alors, selon ce que dit l'enfant, ce que vous avez fait, Marie, c'est-à-dire on va à la brigade des mineurs, ça tombe bien quand on est avec une brigade des mineurs ou un policier ou une policière qui vous prend au sérieux. Alors, comme vous n'étiez pas en instance de divorce, que vous n'êtes pas psychotique, pardon, je plaisante un peu, mais vous avez plus de chances d'être prise au sérieux que si vous présentez quelques troubles psychiques ou relationnels. Je dis ça parce qu'il y a encore tellement... Vous avez de la chance qu'on vous écoute et qu'on écoute votre enfant. Moi, j'en vois tellement qu'on n'écoute pas. Encore maintenant. Et donc, voilà, on va porter plainte, ou en tout cas, on va vers un commissariat de police. On peut aussi, en tant que parent, parce qu'il y a une distinction à faire entre le signalement et la plainte, j'ai eu des cas comme ça où les parents étaient en difficulté pour porter plainte, mais signalaient au procureur, laissant au procureur, c'est-à-dire écrire au procureur pour dire « mon enfant m'a dit ça », et laisser au procureur la décision de demander une enquête préliminaire. Il y a des raisons parfois qui font que des parents préfèrent cette démarche. On peut contacter des centres spécialisés, par exemple l'Institut de victimologie à Paris, etc. Mais si on tombe sur des professionnels qui connaissent un peu le métier, ils vous diront toujours, si votre enfant a parlé, vous devez aller à la brigade des mineurs.
Alors justement, cette question de porter plainte, parce que vous, Marie, voilà, vous êtes allée à la brigade des mineurs, votre enfant a été entendu, puis vous avez fait ce choix, en tout cas, de ne pas porter plainte. Est-ce que, j'entends bien que c'est un choix individuel et familial singulier pour chacun, mais voilà, quelle est votre position, vous, Jean-Paul Meunier, par rapport à ça?
Ma position, c'est que si, par exemple, je suis l'institutrice ou la directrice du centre, ma position, c'est que moi, comme j'ai connaissance de certains faits, je fais le signalement. Et bien sûr, on informe les parents, etc. Et dès lors qu'il y a un signalement, il y a enquête. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose si vous n'aviez pas porté plainte en sachant que personne ne faisait rien. Parce que là, vous seriez encore plus rongé par un sentiment de culpabilité en disant « j'ai rien dit, personne ne le sait, si ça se trouve, il le fait avec des autres ». Que de dire « bon, la plainte est déposée pour des raisons qui me regardent. Ben, j'ai pas envie que mon enfant de 3 ans et demi soit soumis à plein de questions, etc. J'ai envie que de le protéger, de le laisser mener sa vie d'enfant. » De 5 ans maintenant et qui joue, mais parce que je sais que la procédure est en cours. Et que même si vous n'êtes pas porté plainte au pénal, il y a les parties civiles et que les magistrats vont savoir que cet homme a abusé tant d'enfants, même s'il y a des parents qui n'ont pas porté plainte. Donc il faut distinguer les situations. Le professionnel, c'est un professionnel qui reçoit les confidences de l'enfant. Il est tenu par la loi de faire un signalement. Et puis il y a des parents qui sont en grande difficulté pour aller porter plainte et qui, par exemple, ça m'est arrivé, des mères qui venaient me voir parce que leur enfant avait parlé, qui ne pouvaient pas pour des tas de raisons, tout à fait fondées, mais qui attendaient que je fasse mon boulot. Et mon boulot, c'était de faire le signalement et je leur expliquais, il y aura un signalement et il y aura une enquête, vous serez interrogé, vous serez reçu, que vous portiez plainte ou non.
Est-ce que cette question de l'intervention de la loi, elle est importante dans la reconstruction de l'enfant ? Ou en tout cas dans la manière dont les choses vont évoluer pour lui.
Ou bien aussi de regarder ce qui se passe ailleurs. J'ai beaucoup travaillé avec plein d'équipes en Belgique. Et en Belgique, la loi, ce n'est pas l'obligation de signalement, c'est l'obligation de traitement. Et si le présumé auteur ne fait pas une démarche de soins, alors intervient l'obligation de signalement. Ça fait des tas de débats en Belgique, il y a les pour, il y a les contre, etc. Je dirais, là encore, je pense que ce n'est pas la même chose si on est avec un enfant de 3 ans, si on est avec un enfant de 10 ans, etc. J'ai envie de dire, avec un enfant de 3 ans, ce qui est important pour lui, c'est de sentir qu'on l'a protégé, on l'a écouté, on l'a cru et on ne l'a pas traité de menteur. Pour un enfant de 3 ans, les juges, tout ça, c'est un peu abstrait, ce n'est pas dans ses représentations, son monde psychique. Pour un enfant de 10 ans, c'est déjà différent et je pense que c'est mieux. Le passage par la loi. Je pense que c'est structurant. Mais la loi se doit d'être attentive à ne pas devenir une source de maltraitance supplémentaire.
Pour revenir par rapport aux questions de Marie, tout d'abord sur le vécu de la fratrie, est-ce que, voilà, lorsqu'il y a une fratrie, est-ce que c'est important de leur en parler, de les faire accompagner, de les faire consulter ?
Alors, il y a la fratrie et puis ce qu'on vous a dit, regardez, surveillez, parce que ça, c'est un... Alors, la fratrie, évidemment, ce n'est pas la même chose si l'enfant a été victime d'agression sexuelle par un membre étranger à la famille, ce qui est le cas de votre fils, ou si c'est au sein de la famille. Parce que, par exemple, quand c'est au sein de la famille, parfois, vous avez un seul enfant est victime et les autres frères et sœurs ne le croient pas, en disant « mais c'est pas vrai ». Elle raconte que des histoires, d'abord, de toute façon, depuis le temps qu'elle ment ou qu'il ment. Et si c'était vrai ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, alors pourquoi il ne nous aurait pas abusé aussi ? Donc ça, c'est une première grande difficulté qu'on doit travailler avec la fratrie sur qu'est-ce qui fait qu'un auteur, dans le cas d'abus intrafamiliaux, on va faire pour faire rapide, mais j'aime pas trop le rapide quand même, un père, qu'est-ce qui fait qu'il a choisi cet enfant-là dans la fratrie et pas un autre ? Et souvent, l'enfant qui est choisi, quand il n'y en a qu'un qui est abusé dans la fratrie, c'est l'enfant qui est dans une mauvaise relation avec l'autre parent.
Donc là, une prise en charge familiale est indispensable.
Absolument indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout le monde tous ensemble, mais qu'on prend en compte tous les membres de la famille. Et puis, dans la situation de votre fils, de pouvoir dire un jour, si ça présente, c'est pas forcément une obligation, puis il n'y a rien d'urgent, de dire, ben voilà, quand ton frère était petit, il y a quelqu'un, il s'est passé des choses à l'école qui n'auraient pas dû se passer, et ton frère, il a pu nous en parler. Peut-être un jour, il aura envie d'en parler avec toi, mais peut-être pas. Mais il n'y a pas besoin de rentrer dans mille et un détails. Et puis si toi, un jour, quand tu vas à l'école ou ailleurs, tu vois des choses que normalement, on n'a pas le droit de faire, eh ben tu fais comme ton frère. Tu nous en parles.
Et ça, alors, sur la question justement de la prévention, comment voilà, on peut aider les enfants voilà, à se protéger du mieux possible, même si vous disiez bien à 3 ans, même 5 ans, même parfois plus grand, c'est difficile de savoir se protéger. Est-ce qu'il faut parler aux enfants, dire que bah, y a des personnes qui ont des comportements qui sont interdits, qui sont punis par la loi ?
Bien sûr, il faut le dire. Aux enfants, il faut les prévenir. Quand mes enfants étaient plus petits, j'ai fait le boulot, enfin j'espère en tout cas, l'avoir fait correctement. Mais en même temps, d'avoir en tête, de dire voilà. Et puis c'est difficile parce que parfois il y a des hommes ou des femmes qui font peur. Et parfois, les enfants, ils sont obligés de se laisser faire. Et parfois, c'est mieux de se laisser faire. C'est dramatique de dire ça, hein. Je ne suis pas en train de dire tu dois te laisser faire, mais d'avoir nous en tête que parfois un enfant, il sauve sa peau hein, aussi, en ne s'opposant pas, en ne criant pas. Parce que vous avez des agresseurs, tout à coup si l'enfant se débat et se met à crier, que ça peut rendre fou. Et donc, de dire voilà, c'est interdit, on n'a pas le droit de te faire, mais ce n'est pas facile quand on est un enfant de pouvoir dire non. Mais ce qui compte, c'est si jamais une chose comme ça t'arrivait, et que même si tu n'as pas pu dire non, c'est que tu m'en parles. Parce qu'on voit des enfants qui sont encore plus culpabilisés parce qu'on leur avait dit c'est interdit, puis ils n'ont pas pu se protéger. Mais quand on est un gosse de 7 ans et qu'on est avec un bonhomme de 40 ans ou une bonne femme de 40 ans, comment on se protège ? On ne peut pas. Et puis il y a tous les mécanismes d'emprise, d'hypnose, enfin de sidération chez l'enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui devient comme tétanisé, qui se laisse faire. Pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il est sans défense. Donc voilà, c'est de le dire de cette façon-là, mais en ne laissant pas planer que l'enfant doit pouvoir se protéger et que s'il ne s'est pas protégé, c'est qu'il était d'accord.
Par rapport à ce qu'on a dit à Marie de surveiller son enfant, voilà, est-ce que vous auriez des conseils ?
Des conseils. Alors, le premier conseil, c'est d'élever son enfant normalement. C'est de dire, ben s'il fait une bêtise, ben non, on n'a pas le droit de faire une bêtise, de le féliciter quand il travaille bien à l'école, d'être content de le voir jouer, etc. Je vais essayer de le raconter brièvement, une pédopsychiatre qui était une stagiaire de notre centre en formation avec moi, qui un jour m'envoie un mail en me disant « c'est une catastrophe, ma fille de 2 ans était victime d'attouchement chez l'assistante maternelle par le tonton ». Et bon, on va travailler ensemble. Elle fait partie de ces mamans qui, avec son mari, les deux, son mari est médecin, sont tout à fait au fait de tout ça. Et pour des tas de raisons, ils envoient un courrier au proc en disant qu'ils ne souhaitent pas porter plainte, mais signaler les faits. Donc ils laissent le procureur faire son job. Et puis je revois cette jeune femme, je déjeune avec elle, et elle me dit, et alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma fille ? je dis, mais ta fille, elle va devenir, elle va vivre sa vie d'enfant, et puis d'adolescente, etc. Oui, mais avec ce qui lui est arrivé. Non, mais ce qui lui est arrivé, ça n'aurait pas dû arriver. C'est terrible, c'est pour toi, c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Elle t'en a parlé, elle a, à sa façon, t'as compris, t'as décodé, tu l'as protégée. Voilà, elle sait qu'elle a une mère sur laquelle elle peut compter. Alors, comme elle avait 2 ans, cette histoire, même s'il y a une mémoire traumatique, elle va peut-être se perdre comme les étoiles filantes qu'on finit par ne plus voir. Peut-être qu'à certains moments de sa vie, ça va réveiller une émotion, et puis qu'à un moment de sa vie, elle a un flash. Mais tu pourras en parler avec elle pourra en parler avec toi, elle pourra en parler avec une copine, et parce qu'elle va se demander, tiens, d'où ça vient cette histoire? Mais voilà, tu as protégé ta fille. Ce que je l'ai dit et écrit dans cette situation-là, c'est, ce qui compte, c'est d'informer les parents. Par exemple, pour votre fils, quand il va avoir peut-être dans quelques mois, si ça se trouve, vous allez le surprendre en train de regarder, je sais pas quoi, à la télé, parce que là, je sais plus ce que regardent les enfants, Gulli, et un dessin animé, puis qui va commencer à se toucher le zizi, puis à trouver ça pas désagréable. Vous allez tout de suite penser, mince, c'est ce qui lui est arrivé. Et on m'avait prévenu, faut faire gaffe. Et c'est normal que vous le pensiez. Parce qu'il y a aussi un traumatisme chez vous. Parce que ça a fait, il y a avant et après. Pour vous, il y a la mère avant, il y a la mère après. Mais la mère après, elle doit garder confiance en elle. Et garder confiance dans ce qu'elle donne, dans les valeurs qu'elle transmet à son enfant et dans sa capacité à être mère. Et donc, voilà, vous allez y penser, puis vous allez vous raisonner en disant, bon, c'est normal, à cet âge-là, tous les enfants ont tendance à se toucher un peu, ils trouvent que c'est pas désagréable cette affaire, et tous les parents disent, tu as le droit, c'est ton corps, tu peux, mais tu fais ça quand tu es dans ta chambre, dans ton lit, mais pas quand tu regardes Gulli avec ton petit frère ou quand on est en train de passer à table. Et puis, ce comportement va petit à petit se dissiper. S'il persiste, là, il dit oui, mais quand même, quand je dis s'il persiste, c'est au-delà de quelques mois, hein, parce que ça dure un petit bout de temps quand même, la sexualité, enfin les masturbations chez l'enfant. Et si ça persiste au point que vous en êtes inquiète, alors la psychologue qui l'a vu ou quelqu'un d'autre, vous pouvez dire, est-ce qu'on pourrait se faire une petite piqûre de rappel, parce que je me sens en difficulté. Ce qui est, vous, en difficulté pour savoir comment regarder, est-ce que je dois m'inquiéter plus, est-ce que je dois en parler avec mon enfant, etc. L'autre étape du cycle de vie de l'enfant, c'est la puberté. Votre enfant, ce que vous avez décrit, j'ai des doutes qu'à 13-14 ans, quand il va découvrir le plaisir, cette fois-ci, d'une sexualité génitale, il fasse le lien avec ce qu'il a vu quand il était petit. Mais imaginons qu'il est un enfant qui a vécu des agressions plus graves et qui s'est senti, malgré lui, complice de ce qui lui arrivait parce qu'il n'avait pas pu en parler, parce qu'il n'avait pas pu se dire non, etc. Ça, je l'ai vu plein de fois. Et c'est là où c'est le job des éducateurs, au sens large du terme, d'avoir en tête que l'enfant qui va découvrir la masturbation, ça va réveiller chez lui l'idée, mais peut-être que finalement, si j'aime me masturber, c'est que je suis comme mon agresseur et que je vais devenir un agresseur. Si j'aime ça, c'est qu'il y a une bonne raison.
Donc l'importance de ramener de la normalité.
De la normalité. Et j'ai eu, là je pourrais donner des exemples de gamins de 13-14 ans qui d'un seul coup se masturbaient, mais d'une façon plusieurs fois par jour, et qui en plus avaient tendance à en mettre partout. C'était les mots des adultes. Parce que pourquoi ? Il m'expliquait avec mon aide, faut pas croire qu'ils le disent facilement. Mais avec mon aide, de dire, si je me masturbe et que j'aime ça, ça les angoisse. Et donc, parce qu'ils se disent, mais peut-être que je vais faire, que je serai comme mon père, surtout quand ils ont été abusés par un membre de la famille. Alors, comme ça les angoisse, qu'est-ce qui se passe ? Ils se masturbent plus parce que la masturbation calme l'angoisse. Au point même, par exemple, que des garçons peuvent avoir des éjaculations à cet âge-là sans même se masturber. Mais plus ils se masturbent pour se calmer, plus ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et plus ils se pensent condamnés à devenir comme leur agresseur. Et là, il suffit de les rassurer sur leur développement, c'est normal. Je me souviens de ce garçon en qui j'avais dit « t'as le droit de te masturber autant de fois par jour que tu veux, mais ça te regarde, ça ne regarde pas, tu t'essuies avec un Kleenex, t'as pas à mettre ça partout, et tu laisses les sous-vêtements de tati tranquille. » Et j'avais bien dit « autant de fois par jour que tu veux », en sachant que la nature a ses limites quand même. Et simplement, est-ce que vous lui dites « tu peux te masturber 2 fois par jour si tu veux », lui va se dire « et si j'en avais envie 3 fois ?» Donc voilà, par rapport à ce qu'on vous a dit, regardez, surveillez. Moi, je dirais, oui, bien sûr, vous allez être attentif parce que ça a réveillé en vous une sensibilité, parce qu'il s'est passé quelque chose, voilà, qui a fait effraction aussi en vous. Mais pour autant, continuez de voir votre fils jouer. Et puis, si vous avez un doute, voilà, vous posez la question à un professionnel, à quelqu'un, mais vraiment, les traumatismes tels que vous le décrivez à 3 ans ou autour de 3 ans, ça n'a pas non plus des impacts. Ce qui pourrait faire qu'un traumatisme subi précocement continue d'agir sur un destin, sur une destinée, c'est quand il y a des liens d'attachement insécures. Et en fait, ce n'est pas tant le traumatisme qui est en jeu que l'insécurité dans laquelle continue de grandir l'enfant. L'insécurité, c'est pas « oulala, j'ai peur qu'il fasse des bêtises ». Non, l'insécurité, c'est quand on a une maman ou un papa sur lequel l'enfant n'est pas sûr de pouvoir compter. Et là, comme votre enfant, je le redis, mais pas parce que vous êtes là et qu'on est en train de discuter, parce que vous l'avez dit dans votre témoignage, vous avez fait ce qu'il fallait pour votre enfant. Donc votre enfant sait qu'il peut compter sur vous et sur son père.
Vous nous avez dit énormément de choses, Jean-Paul Munier. En tout cas, dans tout ce que vous venez de dire, j'entends vraiment l'importance de la parole, de croire les enfants, de les écouter, et puis d'écouter aussi les parents, parce que, comme vous l'avez dit, voilà, c'est aussi un traumatisme pour eux, et qu'il y a plein de ressources, de professionnels formés à ces questions qui peuvent accompagner les parents et les enfants en difficulté. Jean-Paul recommande souvent des lectures à mes patients. Est-ce que vous auriez quelque chose à recommander aux parents qui nous écoutent?
L'actualité nous abreuve de livres, de témoignages. Il y a le dernier de Camille Kouchner, il y a eu le film Les Chatouilles d'Andréa Bascon, il y a l'affaire Maznev aussi. Et on voit bien d'ailleurs dans l'affaire Maznev comme dans Andréa Bascon qu'on est avec des abuseurs extra-familiaux et on voit comment d'un seul coup il y a une espèce d'aveuglement dans la famille. Dans un cas c'était l'ambiance 68, tout est permis. Dans l'autre cas c'est un lien avec la mère qui est un peu difficile. Et puis Duhamel c'est les abus intra-familiaux.
Donc, l'affaire Enel aussi,
oui.
Il y en a plein.
Il y a le film Festen aussi, qui montre bien aussi que malheur à celui par qui le scandale arrive, hein, en gros c'est ça. Pour des spécialistes, vous avez le livre de Muriel Salmona, Le livre noir des victimes. Je vais citer mes livres, j'ai cité Le silence des enfants, parce que je pense qu'il est à la fois pour des spécialistes et pour des parents. Et je l'avais écrit surtout à l'attention des mères, qui se sentent démunies, qui ne savent plus comment faire. D'autres livres que j'avais écrits, de l'incestuel à l'incestuel, donc il y a quelques années. Il y avait les livres de l'équipe des Buttes Chaumont. Il faut saluer le travail, parce qu'ils ont été les tout premiers quand même en France. Hein. Martine Nice, Pierre Sabourin, Frédéric Ruyer. Leur livre fondateur, La violence impensable, on ne le trouve plus. Puis il est peut-être un peu dépassé. On n'a pas eu le temps d'évoquer, mais c'est normal, la question des mères abuseuses. Dans le livre de La violence impensable, ils expliquent que c'est très rare et que ce sont des femmes psychotiques ou extrêmement perverses. Non, c'est pas si rare que ça. Il y en a peut-être moins que les pères, mais il y en a quand même. Et elles ont les mêmes profils psychologiques que les hommes. Ça peut être beaucoup des femmes immatures avec un fond dépressif, mais aussi des perverses manipulatrices, etc.
Bon, à toutes les références, j'entends bien hein, qu'il y en a plein d'autres. Je rajouterais les trois livres justement qu'Andréa Bascon a fait pour les enfants.
Pour les enfants, donc, oui.
Et si on parlait 3, 6 ans, 7, 10 ans, à partir de 11 ans, il y a aussi Ma sexualité de Jocelyne Robert, pareil, de 0 à 6 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à 11 ans, voilà, qui permettent d'aborder ces questions-là avec les enfants en fonction de leur âge. Et puis, je recommanderais le podcast de Charlotte Puldowski qui s'appelle « Ou peut-être une nuit » qui décortique la fabrique du silence autour de l'inceste et qui est vraiment extrêmement intéressant.
Absolument.
Et bien fait.
Absolument. Les livres pour enfants, moi je dis attention de ne pas non plus assommer les enfants avec ces lectures. Parce que parfois c'est pour se rassurer comme parents et puis les enfants se disent « Mais pourquoi elle n'arrête pas de m'en parler tout le temps ?»
Un immense merci, Marie, d'être venue témoigner. Vraiment, vraiment, merci beaucoup à vous. Un très grand merci, Jean-Paul Munier, pour tout ce que vous nous avez apporté. Je rappelle que vous êtes thérapeute familial et de couple, formateur, superviseur et que vous dirigez l'Institut d'études systémiques à Paris.
Merci. Merci, Marie.
Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.